bonjour à tous. Deuxième jour de notre série consacrée à la belle époque, cet âge d'or associé à l'effervescence artistique, intellectuelle et scientifique qui agite alors le pays. Le mythe a été forgé au cours de la Seconde Guerre mondiale et il mérite d'être questionné, car s'il est indéniable que la France connaît au tournant des 19e et 20e siècles une période de prospérité et d'innovation, la croissance de l'économie ne profite pas à tout le monde. La pauvreté des campagnes pousse nombre de travailleurs à tenter leur chance à Paris. C'est le cas de Marguerite Audou, qui sortira de l'ombre en 1910 avec son roman Marie-Claire, une œuvre inspirée de sa propre expérience qui nous plonge dans la vie ordinaire des ouvrières. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour comprendre ce que la vie et l'œuvre de Marguerite Audou ont à nous dire des femmes prolétaires de la belle époque, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à distance Sarah Almatari, maîtresse de conférences en littérature à l'Université Lyon 2, et Bernard-Marie Garot, maître de conférences à l'Université de Brest. En fin d'émission, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Sarah Almatari et Bernard-Marie Garot, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors hier, nous avons évoqué le Paris de la fête et des arts avec Pierre-Antoine Dumarquet, Emmanuel Charpie et l'opulence de ces appartements bourgeois dévalisés par Arsène Lupin. Alors après Maurice Leblanc, le père du gentleman cambrioleur, c'est une toute autre facette de la belle époque que révèle l'œuvre de Marguerite Audou, Bernard-Marie Garot.
Oui, bon, elle n'a pas eu la postérité d'Arsène Lupin, évidemment. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi. Elle est de la même génération. C'est une inclassable. Après avoir écrit un roman qui est une véritable bombe en 1910 par sa pureté, par son style absolument cristallin, elle écrit ensuite en 1920 l'Atelier de Marie-Claire, qui change totalement de registre, le personnage étant en réalité un groupe de personnages. On passe de la mélodie à la symphonie. Voilà.
Alors c'est une histoire qui nous intéresse, Bernard-Marie Garot et Sarah Almatari, parce que elle nous raconte l'histoire des femmes, l'histoire des ouvrières dans cette belle époque que l'on a parfois du mal à circonscrire, à connaître bien. Marguerite Audou naît le 7 juillet 1863 à Sancoin, entre Bourges et Moulins, dans un milieu populaire. Sa mère est journalière et son père charpentier. Bernard-Marie Garot, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette enfance de Marguerite Audou?
C'est une enfance qui se termine assez vite, puisque la mère meurt alors que Marguerite a 3 ans. D'ailleurs, elle s'appelait pas Marguerite Audou à l'époque, elle s'appelait Marguerite Don Quichotte. Je pourrais revenir sur cette particularité.
Parce que son père est un enfant trouvé.
Oui, le père est un enfant trouvé auquel un officier d'état civil a joué un vilain tour en l'appelant Don Quichotte. Bon, il est arrivé à la même chose au grand-père de René Char, qu'on avait appelé Charlemagne. Donc le père, lui, disparaît dans la nature. Les petites sont élevées d'une façon dont on n'a pas trop de témoignages pendant 2 ans, avant d'arriver à l'orphelinat de Bourges.
Voilà, l'orphelinat qui est aussi l'hôpital général de Bourges, c'est un hospice qui s'inscrit dans la tradition chrétienne de la charité, Bernard-Marie Garot, puisque on est dans une période où l'aide sociale se transforme, mais en fait on en est tout de même à ses balbutiements.
Oui, alors donc l'orphelinat en fait s'intègre dans un ensemble plus vaste avec les sœurs de Marie Immaculée, puisqu'il n'y a pas qu'un orphelinat, c'est pas seulement l'orphelinat, on a également des bonnes sœurs qui soignent les malades, en général des vénériens militaires, des prostituées qu'on appelle des filles soumises, parce qu'elles sont soumises par la police à une visite médicale. Il y a les vieillards aussi, bon, et bien sûr il y a les 40 petites orphelines, avec Sœur Marie Aimée qui assume les fonctions d'institutrice en quelque sorte.
C'est Sarah Almatari. Ce que l'on voit, c'est que dès son enfance, Marguerite Audoux est confrontée à ces transformations, ces évolutions qui caractérisent la Troisième République, puisqu'à la fois elle va bénéficier de cette charité chrétienne et en même temps elle vit dans cette période où l'aide sociale se transforme. Je l'ai dit, on a de plus en plus une intervention laïque, professionnelle et médicalisée auprès des nécessiteux.
Oui, alors elle est comme beaucoup de jeunes filles à l'époque envoyées dans une institution religieuse où elle va recevoir un semblant d'instruction, mais où elle va être aussi formée à la fois au travail, puisque c'est le destin de pas mal de petites filles pauvres, mais aussi à son futur destin de femme, et notamment on lui apprend à être une bonne lingère.
Alors ça va être important pour la suite en effet, et à 13 ans, on est en 1876, elle va être placée chez un tailleur de Neuvy-sur-Barangeon au nord de Bourges. C'est important puisqu'on va beaucoup parler de son rapport au travail et notamment d'abord du travail des enfants. C'est une époque où la journée de travail pour les enfants de 12 à 16 ans est encore de 12 heures, et en l'occurrence les conditions de travail chez ce tailleur vont être particulièrement horribles pour la petite Marguerite, Bernard-Marie Garot.
Oui, c'est une expérience assez éprouvante pour elle, puisqu'elle se retrouve dans un réduit sans fenêtre à respirer les poussières des tissus. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le patron, mais toujours est-il qu'elle s'enfuit pour retourner au couvent et retrouver sa protectrice, dont j'ai déjà parlé, Sœur Marie Aimée. Et on a une trace de cette expérience dans l'épisode de la fugue de Sainte-Montaine. Mais là, c'est de Sainte-Montaine qu'elle s'enfuit dans le roman pour aller retrouver Sœur Marie Aimée. On a également un autre écho dans un passage de l'atelier où elle travaille chez un fourreur et où elle tousse sans arrêt à cause, je cite, des milliers de poils fins qui s'échappent des fourrures et s'envolent dans l'air de la pièce.
Alors que le corps des inspecteurs du travail existe depuis 1874, mais il y a encore évidemment très peu de contrôle dans les campagnes, Bernard-Marie Garot.
Très peu, oui. Les inspecteurs du travail ne s'aventurent pas dans les campagnes, et on sait qu'il y a énormément d'abus. Bon, je m'en remets à ma collègue là, qui est plutôt spécialisée dans ce genre de...
Sarah Almatari.
Oui, il n'y a pas de législation générale, ni à la campagne, ni en ville, voilà. Jusqu'à des dates assez tardives à la fin du XIXe siècle. Et ça explique aussi qu'il y ait de nombreuses revendications dans les milieux ouvriers, et en particulier dans le milieu des travailleuses d'aiguilles. On pourrait évoquer évidemment les mobilisations des ovalistes lyonnaises, ces travailleuses de la soie qu'on connaît en général un petit peu moins que les canuts, ou encore les grandes grèves qu'il y a dès la fin du XIXe siècle chez les corsetières de la région de Limoges, par exemple, et ensuite les grandes grèves du début du XXe siècle autour de 1905-1906 qui vont mener à des grèves générales très dures.
Des mouvements sociaux qui permettent notamment aux femmes d'obtenir que la journée de travail soit réduite à 10 heures en 1892 et que le repos du dimanche leur soit accordé ainsi qu'aux enfants. Sarah Almatari.
Oui, alors tout ça est gagné dans la lutte, et la lutte favorise aussi les solidarités. Féminines qui au départ sont, on le voit un peu d'ailleurs dans l'atelier de Marie-Claire, simplement intuitives, ne supposent pas forcément une conscience de classe, et puis qui s'organisent. Il va y avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui des soupes populaires, une prise en charge des enfants qui d'ailleurs pendant les grèves sont parfois envoyés à la campagne. Donc vous voyez, on a un effet un peu inversé de l'exode rural, puisque les militantes, pour pouvoir se mobiliser, sont parfois contraintes d'envoyer leurs enfants au vert pendant qu'elles sont sur le piquet de grève.
Marguerite Audoux va aussi être envoyée à la campagne dans une ferme en Sologne. Ce sont les religieuses qui prennent cette décision.
Un matin, la supérieure me fit demander. Elle abaissa et releva plusieurs fois les paupières. Elle avait un sourire qui ressemblait à une insulte. Je sentis que je rougissais très fort et malgré cela, je ne détournais pas les yeux. Elle eut un petit ricanement et dit: Vous savez pourquoi je vous ai fait appeler ? Nous avons décidé de vous placer dans une ferme de la Sologne. Elle ferma les yeux admis pour me dire « Vous serez bergère, mademoiselle !» Elle ajouta, en appuyant sur les mots « Vous garderez les moutons !» Je dis simplement « Bien, ma mère !» Elle remonta des profondeurs de son fauteuil et demanda « Vous savez ce que c'est que garder les moutons ?» Je répondis que j'avais vu des bergères dans les champs. Elle avança vers moi sa figure jaune et reprit « Il vous faudra nettoyer les étables, cela sent très mauvais. » Et les bergères sont des filles malpropres. Puis vous aiderez aux travaux de la ferme, on vous apprendra à traire les vaches et à soigner les porcs. Elle parlait très fort, comme si elle craignait de n'être pas comprise. Je répondis comme tout à l'heure. Bien ma mère.
Le petit tambour du roi. Une lecture par Catherine Hubaud d'un extrait de Marie-Claire, le premier roman de Marguerite Audoux, extrait tiré ici d'un documentaire consacré à la romancière et diffusé sur France Culture le 31 août 1986. Bernard-Marie Garraud, comment est-ce qu'il faut comprendre cette décision de la mère supérieure de placer la jeune Marguerite Audoux à la ferme ?
Bah c'est la coutume, hein. Il y a rien d'étonnant à cela. Même si la supérieure n'est pas très sympathique dans sa façon de présenter les choses. Alors bien heureusement, Marguerite Don Quichotte, future Marguerite Audoux, va être agréablement surprise en arrivant, puisqu'elle va trouver de bons maîtres. Il y a deux périodes, il y a une période de 2 ans avec de bons maîtres, et une période de 2 ans avec des maîtres plus durs.
Et ce qu'elle va observer, c'est une organisation du travail à la campagne qui est très genrée. Ça, c'est ce que l'on peut voir dans le quotidien de Marie-Claire dans le roman, Bernard-Marie Garraud.
Oui. Bon, toutes les occupations qui lui sont confiées sont des occupations de femme, c'est-à-dire elle est à la fois bergère d'agneaux et servante de ferme. Alors, de façon très agréable, donc, dans la première période, puisque là, c'est le paternalisme. On retrouvera exactement la même chose dans le second roman, L'atelier de Marie-Claire, où on a un exemple de paternalisme avec les Dalignac et un exemple de loi du profit, d'une certaine façon, avec Clément, le fiancé, et Madame Doublé.
On va voir effectivement comment Marguerite Audoux va multiplier les différents emplois. Pour l'heure, elle est à la ferme et en l'occurrence, ce qu'il faut dire, Bernard-Marie Garraud, c'est que à cette époque-là, nous sommes aux environs de 1880, la population qui vit de l'agriculture représente encore 48% de la population globale et ce sont des conditions de vie très dures que le progrès n'a pas vraiment permis d'améliorer.
Bah, très dur. Bon, c'est comme je le disais, c'est pas dur au sein du foyer des patrons. Bon, ce qui est dur, c'est que elle découvre un univers qu'elle ne connaît absolument pas. Elle est obligée de garder des moutons toute seule, de se perdre dans la nuit. Elle est confrontée aux loups, parce qu'il y a encore des loups en Sologne. Et il y a un épisode célèbre dans Marie-Claire qui est l'épisode où le loup est en train d'enlever une brebis. Bon, ce qui effraie totalement la petite bergère, évidemment.
La Sologne, c'est à ce moment-là une campagne pauvre, Bernard-Marie Garraud, qui commence tout juste à se relever de quoi ? 3 siècles de marasme économique ?
Oui, absolument. Elle est en train de se relever dans ces années 1870. Par exemple, je vous donne un exemple, on creuse un canal qui est le canal de la Sauldre, non pas pour faire circuler des péniches, pour faire voyager du matériel, mais pour récolter la marne qui va enrichir la terre solognotte qui jusqu'ici était très pauvre. Mmh. Et ça, c'est grâce à Napoléon III que la percée de ce canal se réalise.
Une terre pauvre et des épidémies qui se multiplient.
Au mois de juin, des hommes vinrent pour tondre les moutons. Ils apportaient une mauvaise nouvelle. Les moutons tombaient malades sitôt tondus, et il en mourait une grande quantité. Bientôt, il y en eut 100 de malades. Le vétérinaire affirmait qu'en les baignant dans la rivière, on en sauverait beaucoup. Alors le fermier se mit à l'eau jusqu'à la ceinture et un à un plongea les moutons. Il était rouge. Et la sueur qui coulait de son front tombait en grosses gouttes dans la rivière. Le soir, il se coucha avec la fièvre. Le troisième jour, il mourut d'une fluxion de poitrine. Peu après la mort de Maître Sylvain, le propriétaire, M. Tirande, vint avertir Pauline qu'elle devait quitter la ferme. Il voulait y mettre son fils qui venait de se marier. M. Tirande s'arrêta devant moi pour me dire que sa bru avait décidé de me prendre à son service. Pauline devait quitter la ferme à la fin de l'été. Je sentais son regard, désolé. Le soir, je retrouvais Eugène sur le pas de la porte.
Ces gens disposent des autres comme d'un objet. J'ai bien du regret de ne pouvoir t'emmener dans notre nouvelle ferme.
Aussitôt que les grains furent rentrés, Eugène commença le déménagement.
Voilà, le son est parti un peu vite, Bernard-Marie Garot. C'était un extrait de l'adaptation radiophonique de Marie-Claire, diffusée sur France Culture le 13 janvier 1991. La mort du fermier Sylvain Cherrier dans Marie-Claire, donc le premier roman de Marguerite Audoux, renvoie au ravage de la fièvre paludéenne qui sévit dans les campagnes en cette fin du 19e siècle, Bernard-Marie Garot.
Oui, oui, c'est tout à fait d'actualité. Ça ressemblait fort à une pandémie. Les mesures étaient encore plus radicales d'ailleurs, puisqu'on pouvait faire intervenir l'armée. Bon, à propos de... Alors, je signale, on a parlé d'Eugène dans la lecture. Eugène, c'est le frère de Sylvain, le premier patron. Il n'est pas mort, en fait. C'est Marguerite Audoux qui le fait mourir dans le roman, mais ce n'est qu'un roman autobiographique, c'est-à-dire que tout n'est pas autobiographique, je le signale.
Et l'épidémie, en l'occurrence dont on parle, Bernard-Marie Garot, elle est liée à l'environnement, mais aussi à la nourriture, qui à ce moment-là ne manque plus, mais n'est pas assez riche, n'est pas suffisante pour permettre véritablement à la population de ces campagnes de résister à ces attaques de fièvre.
Oui, c'est une nourriture des plus sommaires, parfois surprenante. On fait du pain avec les fougères, par exemple. Et on se nourrit extrêmement mal. C'est pour ça qu'on a appelé les Solognaux les ventres jaunes. Bon, il y a deux étymologies possibles. Ça peut être parce qu'ils leur amenaient du genêt devant eux. Mais c'était sans doute davantage parce qu'ils avaient la peau du ventre jaune et tendue à cause de ces maladies qui leur arrivaient.
Et puis la maison, c'est encore souvent dans les fermes une pièce principale dont le sol est en terre battue et qui peut être imprégné voilà. des eaux de fumier. Tout cela participe de ce climat, de cette atmosphère délétère qui entraîne des maladies.
Absolument, oui, vous avez tout dit. Là, c'est un milieu qui n'est pas très salubre et qu'on va retrouver jusqu'à assez tard d'ailleurs. Cette fameuse maison qui en fait représente la pièce. On la trouvera encore au début du XXe siècle.
Et en même temps, il y a une volonté déjà de la Troisième République d'assainir les campagnes. Volonté qui se heurte à un certain nombre de difficultés et qui prend du temps, mais il y a déjà cet objectif qui est fixé.
Oui, c'est dans le cadre de la réhabilitation de la Sologne, en particulier dans cette région, oui, tout à fait.
C'est important cet épisode dans la vie de Marguerite Audoux et vous avez raison Bernard-Marie Garot de dire que tout n'est pas vraiment arrivé dans ce roman, mais il y a beaucoup de choses qui nous racontent la vie de Marguerite Audoux dans ce roman et notamment est-ce que il est vrai qu'elle a vraiment découvert la lecture dans ce premier emploi à la ferme et notamment Télémaque qu'elle trouve dans le grenier qui va être une révélation Bernard-Marie Garot.
Oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Alors là, on est dans la seconde période, donc dans les deux dernières années qu'elle passe à Villevieille, et avec Henri, donc, parce qu'il faut préciser quand même qu'elle est tombée amoureuse d'Henri, le frère de la fermière. Avec Henri, ils s'échangent des livres comme cela. Alors, il y a des critiques, un peu... qui affabule un petit peu par la suite Hugues Lapeyre par exemple hein, quand il présente Marguerite Audoux comme quelqu'un qui voulait absolument aller à Paris, se faire éditer, c'est presque Chateaubriand ou rien. Mm. Bon, c'est pas du tout ça. Bon,
elle n'y pense pas du tout à ce moment-là.
Non, elle découvre avec simplicité et passion à la fois la lecture. Et effectivement, Télémaque, elle lira Télémaque, oui.
Avant de parler de son départ pour Paris, un dernier mot encore sur son expérience dans cette ferme de Sylvain Cherrier, dans le roman Après la mort de son patron. Ce sont les Alphonse qui reprennent la ferme et ils incarnent une nouvelle génération de paysans, Bernard-Marie Garraud, plus attachés à la technique notamment.
Alors attachés à la technique, attachés au profit, et avec la plus totale froideur dans les rapports humains. Alors le profit, évidemment, se manifeste à travers l'éviction de Marie-Claire, qui renvoie dans son couvent, parce qu'évidemment, ils ont peur d'une mésalliance. Ils ont peur que cette petite-là vienne prendre de l'argent et n'en apporte aucun.
Et alors, bientôt, c'est le départ pour Paris. Écoutez le récit qu'en fait Marguerite Audoux dans Marie-Claire. Huit jours après, Belle-Œil entra dans les cuisines. Elle venait m'avertir de me tenir prête à partir le jour même. Elle tenait dans le creux de sa main deux pièces d'or qu'elle mit l'une à côté de l'autre sur le coin du fourneau, et en les touchant du bout des doigts, elle dit « Notre mère supérieure vous donne 40 francs ». Je ne voulais pas partir sans dire adieu à Colette et à Ismery, que j'avais souvent aperçues de l'autre côté de la pelouse, mais Mélanie m'assura qu'elle n'avait que du mépris pour moi. Colette ne comprenait pas que je ne sois pas encore mariée et Ismery ne me pardonnait pas d'aimer sœur Marie-Aimée. Mélanie m'accompagna jusqu'à la porte. À la porte, je trouvai une femme aux yeux durs. Elle me dit avec autorité « Je suis ta sœur ». Je ne la reconnus pas. 12 ans avaient passé depuis notre séparation. À peine dehors, elle m'arrêta par le bras et d'une voix aussi dure que ses yeux, elle me demanda combien j'avais d'argent. Je lui montrai les deux pièces d'or que je venais de recevoir. « En ce cas, dit-elle, tu feras mieux de rester dans la ville, où tu trouveras plus facilement à te placer. » Tout en continuant d'avancer, elle m'apprit qu'elle était mariée à un cultivateur des environs et qu'elle ne voulait pas se créer des ennuis pour moi. Nous étions arrivés devant la gare. Elle m'entraîna sur le quai pour l'aider à porter quelques paquets. Elle me dit adieu quand son train s'ébranla et je restai là à le regarder s'éloigner. Presque aussitôt, un autre train s'arrêta. Les employés couraient sur le quai en criant « Les voyageurs pour Paris, traversez !» Dans l'instant même, je vis Paris, avec ses hautes maisons toutes semblables à des palais et dont les toits étaient si hauts qu'ils se perdaient dans les nuages. Bernard-Marie Garraud, qu'est-ce que l'exemple de Marguerite Audoux et de son double littéraire, Marie-Claire, nous apprend sur l'accélération de l'exode rural dans la deuxième moitié du 19e siècle? Quels sont les motifs qui poussent alors tant de travailleurs à rejoindre les villes et en particulier Paris?
Parce que normalement, c'est là où on trouve de l'argent. Bon, en plus, Marie-Claire a appris la couture. Bon, donc elle va se trouver, pense-t-elle, et effectivement c'est le cas, une place à Paris. Bon, elle aura énormément de mal dans les premières années, mais effectivement elle va trouver du travail. Il faut pas oublier qu'il y a, enfin je parle sous le contrôle de ma collègue, il y a 60 000 femmes à peu près qui choisissent le métier de la couture à Paris. Et parmi ces 60 000 femmes, il y a 80% de filles d'ouvriers. Voilà.
Sarah Almatari.
Oui, alors il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, le linge marque encore les grands événements de la vie. On emmaillote le nouveau-né, la jeune fille travaille à son trousseau, elle attend sa robe de mariée et puis on enveloppe aussi les morts dans le linceul. On est dans une société où le linge est à la fois un marqueur social, parce qu'il distingue les bourgeois qui portent la redingote des ouvriers en blouse. Et on en a d'ailleurs un exemple dans le roman, puisque dans Marie-Claire, le maître d'école est habillé, nous dit-on, comme les messieurs de la ville, alors que Gêne le Vacher a une blouse bleue. Et la petite fille, Marie-Claire, est très étonnée de voir que Eugène tutoie le maître d'école qui n'appartient pas à son milieu et qu'ils sont même amis. De la même manière, Henri Deslois, le fils du propriétaire, détonne dans sa classe parce qu'il s'habille en blouse et qu'il est tête nue. Bref, donc le linge Ça explique l'importance des couturières, est un marqueur social et c'est aussi un marqueur de genre, puisque l'homme est rangé du côté des travaux de force et des matériaux durs, alors que la femme, elle, est cantonnée soit au foyer, soit à des métiers comme celui de couturière où elle manie des étoffes et des matériaux considérés comme fluides.
Et quantité de ces couturières ont été placées par leur famille à qui elles apportent un complément de revenus. On le voit dans l'atelier de Marie-Claire, les ouvrières revendiquent leurs origines régionales.
Oui, alors c'est un rituel, à vrai dire, puisque, et là, il faut relire la magnifique enquête menée par Yvonne Verdier sur les couturières. C'est un rituel d'envoyer les jeunes filles, l'année de leurs 15 ans, passer une année chez la couturière. Une sorte de rite de passage qui les prépare à l'entrée dans la vie adulte. Et ça confirme aussi cette espèce d'obsession du linge qui vient d'une association entre le corps des femmes et le linge, association qui est symbolisée par le marquage du trousseau. Après la première communion, en fait, les jeunes femmes travaillent en fait à marquer leur trousseau et c'est leur seul bien finalement que ce trousseau qu'elles emportent en général quand elles se marient, quand bien même elles n'auraient pas été payées par ailleurs pour réaliser certaines tâches. Elles emportent aussi leur trousseau au champ. Il y a une véritable continuité entre le travail au champ et la couture, puisque bien souvent il faut s'occuper les mains, c'est un impératif moral, surtout pour les jeunes filles. On leur occupe les mains en leur donnant du tricot ou des travaux de couture à réaliser au champ.
Alors qu'est-ce que la vie à Paris pour une jeune ouvrière venue de la campagne à la fin du 19e siècle? Et comment une simple couturière va-t-elle devenir l'autrice d'un best-seller qui donnera son nom à un magazine féminin, Marie-Claire? On en parle dans un instant.
Il fait bien froid dans la mansarde où la maman pour son bambin ce soir encore veille et s'attarde sur le travail qui doit gagner leur pain. Ce soir pourtant c'est un beau soir de fête et dans la rue l'on s'amuse et l'on rit. Voici Noël et déjà l'on achète 1000 joujoux pour la joie des petits. Et la maman qui songe à son enfant est descendue de chez elle en disant: pourquoi donc mon petit n'aurait pas de joujou quand les autres en ont tant qu'ils brisent? Et devant un bazar à l'abri des regards, elle a pris un joujou au hasard. Pour qu'à l'heure où minuit sonne ses 12 coups, le bonhomme tout blanc que l'on attend partout apporte à son petit comme un cadeau du ciel le joujou du Père Noël. La surprenante à l'étalage, voyant son geste, un employé, pour s'expliquer selon l'usage, l'entraîne au commissariat du quartier. Qu'avez-vous fait? Réfléchissez, madame, c'est bien un vol et voler pour si peu. Le commissaire a deviné le drame et de la mère il arrache un aveu.
Joujou de Noël par Berthe Silva, qui fut femme de chambre avant de devenir chanteuse à la veille de la Première Guerre mondiale. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho et nous poursuivons notre histoire du prolétariat féminin à la Belle Époque. Sarah Almatari et Bernard-Marie Garraud sont toujours avec nous. Alors Marguerite Audoux est la voix de ces ouvriers qu'elle dépeint si bien dans son deuxième roman, L'Atelier de Marie-Claire, publié en 1920. Elle-même a travaillé, donc, on l'a dit, en tant que couturière dans un atelier textile comme tant de femmes de son époque.
Le textile a été, en effet, le grand secteur d'emploi des femmes, en usine et en atelier. Elles sont entrées en masse dans les filatures et les tissages de la première révolution industrielle à Manchester, Krefeld, à Roubaix, à Mulhouse, partout. À Mulhouse, en 1838, le docteur Villermé voit leur triste cortège à l'entrée des fabriques. Parfois, elles sont escortées de leurs enfants. Des traits identiques caractérisent leur travail usinier. D'abord, il est temporaire. Les ouvrières ne passent pas toute leur vie à l'usine. Elles y entrent jeunes, voire très jeunes, dès 12-13 ans, ils restent jusqu'à leur mariage, voire plus tôt, à la naissance de leur premier enfant, quitte à y revenir plus tard, quand les enfants sont élevés et au besoin avec eux. C'est donc un travail cyclique au cours de la vie, sans perspective de carrière ni de retraite qui, de toute façon, n'existait pas à cette époque.
L'historienne Michèle Perrot sur France Culture le 23 mars 2005. Avec le développement de la lingerie et de la mode, il y a de nombreux métiers liés à la couture qui apparaissent, Sarah Al-Matari, en ce début du 20e siècle.
Oui, quel plaisir d'entendre la voix de Michèle Perrot qui nous a donné un si beau livre, Mélancolie ouvrière, sur une ouvrière tisseuse de la soie, Lucie Beau, également syndicaliste et grande militante qui s'est engagée dans de grandes grèves. Oui, alors de nombreux métiers d'ailleurs, il y a une sorte de flou terminologique entre les lingères, les modistes, les couturières. Et Michèle Perrot a raison d'insister sur la différence entre les ateliers et les usines. Il y a de tout petits ateliers, des structures à 5 personnes, comme on voit au début de l'atelier de Marie-Claire, et puis ça s'industrialise, y compris dans le roman, puisque à la fin du roman, l'atelier de Marie-Claire compte une trentaine d'ouvrières. Et puis il y a l'usine qui apparaît dans le roman comme le repoussoir ultime. Le repoussoir ultime parce que l'usine, c'est une forme de promiscuité, qu'il y ait d'ailleurs des hommes ou pas qui y travaillent. Et bien souvent, les couturières refusent d'aller travailler en usine. En tout cas, elles craignent qu'une période de chômage les y contraigne. Et c'est le cas de Marie-Claire qui a vu combien l'usine avait abîmé certaines de ses camarades, et notamment une camarade ouvrière qui est revenue d'une période de travail dans une usine de conserverie avec les mains abîmées, ce qui l'empêchait de travailler les étoffes fines, puisque ses mains accrochaient après cette expérience.
Bernard-Marie Garot, l'usine est un repoussoir, mais les femmes ne sont pas les bienvenues non plus dans ces usines, puisqu'on estime que l'usine dévergonde les femmes, et puis il y a aussi une peur qu'elles remplacent ou qu'elles prennent les emplois des hommes.
Oui, c'est le cas. Alors, il faut préciser que en vertu du chômage là, qui sévit, Marguerite Audoux est obligée parfois d'aller elle-même en usine. Elle aura 2 expériences malheureuses. Elle sera à la cartoucherie de Vincennes, où elle fabrique les cartouches, elle qui est anti-belliciste, non-alignée. Bon, ça c'est une épreuve morale. Et elle va surtout se retrouver dans les buanderies de l'hôpital Laennec, où elle manque de perdre la vie parce qu'elle s'est piquée avec une épingle à nourrice qui était dans un pansement. Le mal a commencé. Heureusement, il y a eu un grand patron de l'époque qui l'a soignée, qui l'a empêchée de se faire amputer. Donc, elle a connu un petit peu cette vie d'usine.
Et les femmes sont massivement employées dans l'industrie textile, comme le disait Michèle Perrot, mais essentiellement à des postes subalternes, Sarah Al-Matari.
Oui, elles sont à des postes subalternes, mais elles subissent des conditions qui sont aussi effroyables que celles des hommes. Dans ces fabriques, alors... Finalement, ce monde de la fabrique, il est très très peu décrit dans l'atelier de Marie-Claire, hein, puisqu'on reste quand même sur un modèle qui est plutôt un modèle artisanal. Et c'est très important parce que, de ce point de vue-là, la littérature telle que la pratique Marguerite Audoux se distingue en fait d'une littérature prolétarienne pure, en tout cas dans le sens soviétique. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Henri Poulaille, qui va intégrer Marguerite Audoux au roman prolétarien, insiste beaucoup sur cette différence entre un modèle qui est encore un modèle artisanal à petite échelle et un modèle industriel qui est celui en fait de la grande usine telle que le roman soviétique la décrit.
Alors les couturières sont parfois obligées de veiller toute la nuit à l'atelier pour honorer les délais, c'est ce que décrit Marguerite Audoux dans l'atelier de Marie-Claire. L'une de ses collègues proteste en disant « puisque nous travaillons davantage dans les moments pressés », eh bien, il faut pouvoir nous payer davantage, mais ce que l'on voit, c'est que c'est l'une des rares revendications qui apparaît dans le roman. Marguerite Audoux n'est pas une militante, elle se contente de décrire ce qu'elle vit, Bernard-Marie Garot.
Oui, vous avez totalement raison, c'est pas une militante. Elle refuse tous les drapeaux, elle ne se battra jamais au nom d'une cause. D'autant plus qu'en général, ça sombre dans la violence. Elle a dit elle-même, défendre une bonne cause par la violence devient une mauvaise cause. Alors, elle refuse tous les drapeaux, elle refuse tous les honneurs même. En 1933, on lui enverra un formulaire pour la Légion d'honneur. Bon, j'ai retrouvé dans l'enveloppe le formulaire vierge, absolument sans aucune trace. Elle voulait absolument pas rentrer dans ce genre de choses, ni dans la Société des gens de lettres. Il y a Hugues Lappert qui voulait la faire rentrer à la Société des gens de lettres, elle ne voulait pas. Donc ce n'est pas quelqu'un qui brandit des drapeaux, voilà.
Ce n'est pas quelqu'un qui brandit des drapeaux à l'heure où d'autres le font, on va y revenir. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur cette question du chômage que vous avez évoqué l'un et l'autre. Chômage évoqué, bien évidemment, dans l'œuvre de Marguerite Audoux, puisque l'été, les ateliers ferment.
La fin de décembre ramena la morte saison et il fallut nous séparer encore une fois. Bulldog quitta la première pour s'embaucher dans une fabrique de conserves alimentaires. Jusqu'à présent, elle avait employé son temps de chômage à faire de la lingerie fine avec une amie. Mais l'amie venait de partir à l'étranger et Bulldog ne savait à qui s'adresser pour avoir le même travail. Je partis à mon tour et dès le lendemain, j'entrai chez un fourreur qui demandait des ouvrières pour un coup de main. Le prix qu'on m'offrait était de beaucoup plus élevé que chez Madame d'Alignac, aussi j'apportais toute mon attention à ce nouveau travail. Mes doigts eurent peu de peine à manier l'aiguille carrelée, mais j'éprouvais tout de suite une grande difficulté à respirer. Des milliers et des milliers de poils fins s'échappaient des fourrures et s'envolaient dans l'air de la pièce. Un chatouillement insupportable me prit à la gorge et je toussais sans arrêt. Les autres me conseillaient de boire de grands verres d'eau, mais la toux recommençait une minute après. Au bout de quelques heures, je fus prise d'un violent saignement de nez, et le soir même, le patron me mit à la porte. « Allez-vous-en, vous n'êtes bonne à rien ici. » Lasse de chercher à m'employer selon mes capacités, je me décidai à entrer dans une maison que venait de quitter ma vieille voisine, Mademoiselle Herminie. Il s'agissait de coudre des bandes de cuir et de flanelle sur des rouleaux servant à l'imprimerie. C'était un dur travail qu'il fallait faire debout et qui n'avait pas mis 3 mois à rendre bossue Mademoiselle Herminie. Je l'abandonnai à la fin de la première semaine, car je sentis que je deviendrais bossue aussi.
Sarah Al-Matari, l'histoire de Marie-Claire, c'est aussi l'histoire des mots MAUX que le travail inflige au corps.
Absolument. On a évoqué tout à l'heure le travail des enfants. On a l'occasion, là, avec le personnage de Mademoiselle Herminie, d'évoquer le travail des anciens. Mademoiselle Herminie, c'est la voisine de Marie-Claire. Elle a plus de 70 ans et elle travaille encore, y compris pendant des périodes où ses clientes partent en vacances, si elle ou elle se retrouve également en vacances, mais là, le mot vacances a le sens de chômage, à faire des raccommodages. Elle vit, cette dame, dans une assez grande misère, une chambrette étroite, si étroite qu'il a fallu démonter les meubles pour les faire rentrer et que certains n'ont pas été remontés 30 ans plus tard. Très peu d'air, une forme de promiscuité, et puis elle est parfois contrainte de partager ses dépenses et notamment ses repas avec Marie-Claire. Et toute la force, finalement, des romans de Marguerite Audoux vient du fait que les conditions de travail y sont simplement suggérées par touche. On nous dit, par exemple, un mot du manque d'air, de cette poussière de tissu, de ces fibres qui volent et qui encombrent les poumons. On nous dit parfois un mot aussi sur le froid ou sur le manque de lumière. Mais tout ça se fait par touche et de façon non dogmatique. Et c'est ainsi que Marguerite Audoux fait de la politique.
Ce qu'il faut expliquer, Sarah Al-Matari, c'est que pour l'héroïne de Marguerite Audoux, s'il faut trouver du travail à tout prix, c'est dans un contexte où l'aide publique en est encore à ses tout débuts, mais à cette époque, il y a tout de même une prise de conscience que les chômeurs sont des victimes de la conjoncture économique.
Oui, sans doute. Bon, ce sont des questions assez complexes qui, à vrai dire, ne sont qu'évoquées encore une fois dans le roman. Ces femmes qui se retrouvent seules à Paris, et en particulier le personnage de Marie-Claire, qui est orpheline, ont absolument besoin de travailler pour vivre, tout simplement. Et ça, c'est une contrainte qui pèse sur elles au quotidien.
Alors certains médecins et certaines féministes aussi s'inquiètent de la situation des ouvrières, Bernard-Marie Garot, là où effectivement elle n'est pas dans une attitude militante comme on l'a dit, mais il y a en même temps voilà des voix qui s'élèvent pour dénoncer ces conditions de travail des femmes ouvrières.
Oui, absolument. Et même au sein de l'atelier, bon, vous avez un contraste avec l'attitude de Marie-Claire, c'est celle de Bulldog, dont on a déjà parlé, qui représente un petit peu la voix d'un syndicaliste ou d'une syndicaliste. Donc, oui, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent.
Mais le monde des ouvrières est beaucoup moins organisé, beaucoup moins syndiqué que le monde ouvrier masculin, Sarah El-Matari.
Bah, il est moins de fait parce que de toute façon l'organisation syndicale dans les métiers féminins est encore balbutiante. Mais enfin, c'est une revendication quand même. Hein. Pendant la grève des corsetières en 1895, cette revendication s'exprime de manière massive. Mais bon, il y a quand même des solidarités qui sont peut-être pas aussi structurées, mais qui se font jour. Et ce qui est très intéressant, me semble-t-il, dans l'atelier de Marie-Claire, c'est que les solidarités touchent également, enfin, concerne également les patrons. Marguerite Audoux ne décrit pas de mauvais patron. La figure du mauvais patron, en fait, est présente par intermittence à travers notamment la figure de la belle-sœur des Dalignac, mais les patrons chez lesquels elle est employée sont de bons patrons et il y a une véritable solidarité entre ouvriers et patrons, ce qui peut sembler assez peu banal. Mmh. Cette solidarité se transforme en véritable intimité dans le roman et même à la fin du roman, lorsque la patronne, Madame Dalignac, est presque ruinée, il y a une véritable amitié qui s'instaure entre Marie-Claire et elle. C'est une patronne qui a toujours été attentive à ses ouvrières, qui les a écoutées, et c'est Marie-Claire qui va même lui conseiller de travailler pour un grossiste du sentier et passer à un mode de fabrication autre que celui de la confection à façon qui était alors son mode de travail privilégié.
Et c'est peut-être en s'inspirant de cette patronne, justement Bernard-Marie Garot, que Marguerite Audoux décide de s'établir à son compte en 1895, elle va à son tour employer des couturières.
Absolument, oui.
Mais est-ce que ça lui permet pour autant de gagner un peu plus confortablement sa vie ?
Oui, oui. Et puis en plus, elle en est totalement capable parce qu'elle a des patrons qui vont aller jusque rue de la Paix. Donc, elle est presque connue.
Là, vous parlez de patron de couture cette fois.
Oui, je parle de l'objet patron.
Oui, parce qu'elle a fait son apprentissage dans un grand atelier de couture de l'avenue du Maine, dans le sud de Paris.
Martignac, oui.
Ça lui a permis de progresser considérablement.
Oui, oui, c'est le modèle de Dalignac d'ailleurs.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que chez Martignac régnait cette atmosphère que vient de nous décrire ma collègue, c'est-à-dire on était encore un peu dans ce que j'appelle moi le paternalisme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conflit entre patron et ouvrier. Donc elle a eu la chance d'avoir finalement des expériences relativement heureuses, bon, en dehors des périodes de chômage et de tout ce qu'elle a pu vivre à côté.
Mais pour autant, est-ce qu'elle n'est pas restée pauvre toute sa vie, Bernard-Marie Garot ?
Elle est restée absolument pauvre toute sa vie, parce qu'elle a touché une fortune au moment de Marie-Claire, qui a tiré à plus de 100 000 exemplaires. Mais, je crois que son amie intime, depuis l'année 83, là, Louise Duguay, qu'elle surnommait Rabat-Joie, l'a obligée à faire quelques petits investissements, parce que par exemple, on voit les cartes postales qu'elle envoie, rue Léopold-Robert, il y a une croix sur une fenêtre avant Marie-Claire, et il y a trois croix sur trois fenêtres après Marie-Claire. Bon, ça veut dire qu'elle a fait ce qui est tout à fait à la mode en ce moment, elle a réuni des chambres de bonne. Bon, Louise Duguay l'a aidée à économiser un peu, mais c'était plus fort qu'elle. Elle dilapidait. Bon, elle donnait beaucoup, elle donnait énormément. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, elle va être aidée. Elle va être aidée par Francis Jourdain, donc son ami peintre et décorateur, qui va ouvrir une souscription. Dans une lettre de 1928, il lui envoie le détail de cette souscription. Et vous avez Maurice Bedel aussi, qui fait partie des 55. Bon, c'est une association qui regroupe des éditeurs et des auteurs, qui arrive à lui obtenir une rente, en quelque sorte, de 6000 francs par an. Ça se passera en 1929, en 1930.
C'est donc important
c'est pour dire que si cette rente existe, bon, ça veut dire qu'elle était quand même dans un certain dénuement. Bon, on n'a pas parlé de l'adoption de sa nièce et de ses petits neveux, bon, qui lui a pris énormément d'argent aussi.
Effectivement, et alors il faut parler de ces rencontres décisives qui vont déboucher sur la publication en 1910 de son premier roman. L'histoire veut que Michel Yel, qui était devenu son amant, ait trouvé le manuscrit de Marie-Claire dans un tiroir de sa machine à coudre.
Oui, alors... Michel Yel s'intéressait d'abord à la nièce, à Yvonne. Bon, jusqu'au jour où il s'est aperçu qu'elle se prostituait dans les Halles. Et c'est là où il est allé voir la tante pour se consoler. Bon, il s'est si bien consolé que ça a duré 12 ans. Et il l'a introduite dans un groupe, donc, qui est pas très connu, malheureusement. Je viens d'écrire un essai, là. Je suis en attente de publication. C'est le groupe de Carnotin. Et tout ce petit groupe va découvrir, oui, c'est Michel Yel qui découvre au départ le manuscrit dans son tiroir de machine à coudre. Il va convoquer le groupe d'écrivains et d'artistes et il va y avoir une lecture qui sera faite et tout le monde va s'enthousiasmer. Francis Jourdain connaît Octave Mirbeau. Il va lui porter le manuscrit et Mirbeau s'enflamme également. Il va la faire éditer chez Fasquelle et lui faire obtenir le prix Fémina. Donc c'est un véritable coup de tonnerre, un coup d'État, puisque ça se passe le 2 décembre 1910.
Octave Mirbeau écrit dans la préface de Marie-Claire que l'écrivaine est dotée, je cite, d'un sens inné de la langue qui lui permet de travailler sa phrase, de l'équilibrer, de la simplifier en vue d'un rythme dont elle n'a pas appris à connaître les lois, mais dont elle a, dans son surgénie, une merveilleuse et mystérieuse conscience. Cet entourage va jouer un rôle déterminant et ce roman va lui apporter une gloire réelle, mais une gloire éphémère, Bernard-Marie Garot.
Oh, éphémère, n'exagérons pas, puisque bon, elle a tiré à plus de 100 000 hein, de son vivant, plus les traductions, il y a des traductions dans toutes sortes de langues, dont l'espéranto, et l'atelier de Marie-Claire, lui, va quand même tirer à 30 000, bon, on est beaucoup à rêver d'un tel tirage. Hein.
Et effectivement, on cite quand même son nom pour le Goncourt. Alors, finalement, il sera attribué à Colette pour La Vagabonde, mais c'est déjà beaucoup qu'il ait été suggéré que certains aient voté pour lui, aient voté pour elle, pardon.
Le Goncourt va à Pergaud, là.
Ah.
En 1910, c'est Pergaud qui a le Goncourt. Ça aurait été absolument extraordinaire qu'elle l'eût elle-même, puisqu'elle avait déjà le Fémina.
Eh ben, j'ai eu une mauvaise information pour Colette et pour La Vagabonde. Mais alors, il faut dire effectivement qu'elle est défendue, donc on l'a dit par Octave Mirbeau, l'auteur du journal d'une femme de chambre, par André Gide. Elle a aussi une amitié assez forte avec Alain Fournier. Tout cela va constituer son quotidien dans ces années qui suivent la publication de son roman. Mais ses autres romans vont connaître moins de succès, Bernard-Marie Garot. Oui. Même si on peut dire que son œuvre demeure un témoignage assez précieux, même très précieux, sur la condition des ouvrières et la condition des femmes au tournant du siècle.
Oui, et même sur sa propre vie, parce que c'est dans le troisième roman, par exemple, de La Ville au Moulin, qui paraît en 1926, qu'elle évoque la perte d'un enfant, puisqu'en 83, elle a une liaison avec un certain Pouinard, et l'enfant ne survivra pas, il ne vivra qu'un mois. Donc on trouve ça dans De la Ville au Moulin, on trouve aussi l'épisode dans les buanderies de la Hennec dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un livre, bon, littérairement, il est moins percutant que Marie-Claire, par exemple, qui est un cas dans la littérature. Mais elle écrira quand même en 37, elle finira le manuscrit juste avant de mourir, Douce Lumière, qui est une sorte de refonte de Marie-Claire. C'est un Marie-Claire de la vieillesse. D'ailleurs, c'est le seul qui est écrit à la troisième personne. Il y a une certaine distance. Il y a une certaine poésie aussi. Bon, il a été traduit en japonais. C'est pas par hasard. Il y a une espèce de minimalisme de Marie-Claire que l'on retrouve dans ce dernier roman. Alors, un décrescendo, oui, mais quand même avec des œuvres. Alors, il y a les contes aussi qu'elle publie en 32 chez Flammarion, qui sont tout à fait dignes d'intérêt, dans lesquels on retrouve la patte, le génie stylistique de Marie-Claire.
Et la lumière, c'est important, c'est un motif important dans son œuvre et dans sa vie, puisque dans son logement, Marguerite Audoux, un logement trop exigu, trop sombre pour la couturière qu'elle est, elle manque plusieurs fois de devenir aveugle. Un dernier mot, peut-être, Sarah Al-Matari, sur ce qu'il reste aujourd'hui de Marguerite Audoux, qui demeure une figure importante de la littérature prolétarienne et qui inspirera le magazine féminin Marie-Claire, qui se crée l'année de sa mort en 1937, même si ça n'était pas vraiment son souhait, je crois. Sarah Al-Matari.
Oui, Henri Poulaille, dans les années 30, va intégrer Marguerite Audoux à ce qu'il appelle la littérature prolétarienne. C'est une étiquette assez polarisante, puisque les communistes la réclament eux aussi. Il trouve, Poulaille, chez Audoux, une forme de littérature fondée sur le sentiment et qui lui paraît éminemment humaine. Et à la fois, il se félicite du succès de Marie-Claire, mais ce succès... l'interpelle aussi parce qu'il a du mal à comprendre comment une œuvre qu'il considère comme extrêmement saine a pu intéresser ce qu'il appelle les snobs. Il dit le snobisme s'est jeté sur cette œuvre comme sur une proie et il s'indigne qu'on ait pu baptiser Marie-Claire, l'année même de la mort de Marguerite Audoux, un magazine d'un grand groupe bourgeois, le consortium Paris Soir. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de cette œuvre aujourd'hui ? Eh bien, elle est publiée en collection de poche. C'est quand même un indice de son succès. Et puis, elle attire aussi des éditeurs jeunesse qui tentent d'en faire une œuvre féministe parce que, effectivement, la condition des femmes, les grossesses non désirées, les violences conjugales y sont décrites. Mmh. Alors, on peut considérer que c'est une forme de récupération, peut-être. En tout cas, Marguerite Audoux a gagné sa place à la fois en tant que femme et en tant qu'ouvrière dans l'histoire de la littérature. Elle n'est pas la seule, hein. Il y avait au XIXe siècle des poétesses ouvrières, mais dont le nom, malheureusement, n'est pas forcément passé à la postérité. Et voilà, on peut dire que le nom de Marguerite Audoux, lui, est resté dans l'histoire.
Et on ne dira jamais assez à quel point il faut lire Marie-Claire, mais aussi l'atelier de Marie-Claire. C'est passionnant et c'est effectivement un choc esthétique réel. Merci beaucoup, Bernard Marie Garot et Sarah Al-Matari, de nous avoir accompagnés tout au long de cette passionnante émission. On mettra les références de vos articles sur la page de l'émission. Et tout de suite, c'est l'heure pour nous de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
L'OCDE fêtait lundi ses 60 ans. L'Organisation de coopération et de développement économique est devenue le symbole d'une coopération efficace et l'outil privilégié des politiques libérales.
Et oui, l'OCDE, c'est un peu l'apprentissage forcé du multilatéralisme économique après la Seconde Guerre mondiale et l'injection d'une dose de libéralisme en Europe, puisqu'à cette époque, pour faire un peu d'histoire, époque troublée de 1947-48, les États-Unis étaient inquiets de la poussée des partis communistes européens et posaient une condition à l'utilisation des millions de dollars du plan Marshall, une structure commune pour superviser leur distribution et garantir l'ouverture libre-échangiste des marchés. Finalement, les premiers embryons de la communauté économique européenne ont pris le relais politique dans les années 50, mais une partie de la structure de l'Organisation européenne de coopération économique, l'OECE, est restée et l'OCDE qui lui a succédé s'est élargie mondialement de 20 pays en 1960 à 37 aujourd'hui. Elle continue de gagner des adhérents, particulièrement en Amérique latine, et les États-Unis, premiers financeurs, sont restés. Une attractivité rare, Tiffaine, donc comparée aux déboires de l'OMC et du G8 de ces dernières années, et ce, malgré des critères d'adhésion sévères.
Et c'est ce qui vaut parfois l'OCDE le surnom de club des pays des riches.
Eh oui, 60% du PIB mondial, avec une influence telle qu'elle est devenue le bras armé des pays du G20 pour faire des recommandations de politique économique, écrit Le Figaro, parce qu'elle est une gigantesque agence d'études et de comparaison, sorte de benchmarking des politiques publiques, plus de 500 rapports par an, de la beuverie chez les jeunes à l'intelligence artificielle en passant par l'emploi et bien sûr le célèbre PISA sur l'éducation, et parce que l'économie de marché ouverte et réglementée, je cite, est la première conditions à l'adhésion de ses membres, déréglementation des marchés, y compris du travail, renforcement des règles budgétaires ou monétaires pour fournir au marché une cohérence temporelle des politiques publiques, comme on lisait lors du cinquantenaire dans Perspective économique, l'une de ses publications, au point que dans l'Humanité en 2011, la directrice des études statistiques de l'OCDE, Martine Durand, critiquait même une certaine dérive comptable, trop comptable de l'organisation.
Mais l'OCDE, Xavier, aurait effectué une sorte de tournant social ?
Oui, là, on était en pleine crise grecque et c'est à partir de cette époque, post-2008, qu'apparaissaient de nouveaux indicateurs et une série étonnante de rapports sur les inégalités. Le plus remarqué en 2012 était illustré par la montgolfière des 1% les plus riches, s'élevant gracieusement au-dessus de celle clouée au sol par les 99% restants qui voulaient monter à bord. Le social à fond, disait à ce moment-là le secrétaire général Andrzej Gurria, inquiet d'attiser, disait-il, des sentiments populistes, protectionnistes et anti-mondialistes. Assez donc pour que le journal Le Temps y voit en 2014 la conversion de l'OCDE aux thèses de Thomas Piketty, mais insuffisant pour qu'elle tourne vraiment kazakh, estimait alors le monde diplomatique. Reste que depuis 2018, c'est l'ancienne conseillère de François Hollande, Laurence Boone, qui est bien la chef économiste de l'organisation, elle qui insistait il y a 2 semaines sur, par exemple, les revenus de substitution, les jeunes ou les enfants défavorisés.
Et le danger pour l'OCDE, c'est surtout de devenir un instrument inutile.
Alors là, il guette toujours, Tiffaine. Il y a 15 ans, c'était un truc poussiéreux, techno, des comités incompréhensibles, de la norme molle qui conduisait nulle part. Ce n'était pas la belle endormie, c'était la moche endormie, lâche un officiel à l'AFP. Même Pascal Saint-Amand, devenu responsable de la taxe sur les multinationales, y voyait alors une organisation de seconde zone. Le réveil est venu en fait sous la double impulsion des crises systémiques et de son secrétaire général, donc le truculent et ambitieux Andrzej Gurria, qui avait déclaré dès 2005 vouloir faire de l'OCDE, le secrétariat général de la mondialisation. L'organisation a ainsi supervisé les nouvelles règles macro- et micro-prudentielles bancaires, budgétaires et monétaires après 2008, et parmi les réalisations les plus tangibles, souligne Richard Yo dans Les Échos, la fin du secret bancaire en 2009, qui a déjà permis de récupérer 102 milliards d'euros de recettes fiscales. Première image donc de l'Everest de la lutte contre l'évasion fiscale à gravir.
Restent les prochains chantiers, des tests pour la coopération et pour l'orientation politique de l'organisation.
Oui, là en particulier la taxe GAFA qu'Emmanuel Macron veut établir pour 2021. Les négociations à 135 pays ont achoppé en juillet avec le retrait subi des États-Unis qui voulaient l'étendre à toutes les multinationales. Or, ce dossier est lié à un second tout aussi épineux, le choix d'un nouveau secrétaire général pour le mois de juin. Parmi les 10 candidats les plus en vue, l'Américain Christopher Liddell, bon connaisseur des dossiers internationaux et proche de Donald Trump et des grands groupes, ou encore Philippe Hildebrandt, ex-gouverneur de la Banque Centrale Suisse et vice-président du fonds BlackRock. Alors avec l'importance de ces multinationales, la Suisse aurait aussi intérêt à faire main basse sur l'OCDE, dit le quotidien helvétique Le Temps. Vous le voyez, Tiffaine, pas tout à fait le champ de l'international socialiste.
Merci beaucoup, Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr.
Older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears could have made me drown deeper. Been your life better during 6 or 7 winters. Sorry, but I ain't your mama. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war.
C'était Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Philippe Baudouin, à la technique aujourd'hui Alex Dang. Demain, la belle époque s'offre à nous à travers la plume de Jules Verne, le grand maître de l'innovation. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.